Donc le premier exemple que j'ai choisi de développer, c'est celui de l'union monétaire, l'unification monétaire allemande, parce que l'Allemande est quand même au cœur du projet de construction de l'euro, de la monnaie unique et de la zone euro. Et l'union monétaire allemande, elle a commencé par un projet, l'union douanière, ça remonte au début du 19e siècle, 1825. On a dû passer par un certain nombre de traités d'émissions monétaires, le traité de Munich, le traité de Dresde, il y a eu le traité de Vienne, on ne s'est pas entendu avec les Autrichiens, il y a eu une guerre, les Autrichiens étaient sortis. Et puis bref, 50 années plus tard, l'émission monétaire des pièces devient un fait, devient effective, et c'est finalement avec la création de la Reichsbank en 1876 que l'union monétaire allemande se concrétise. Donc ça fait, on voit qu'on parle déjà d'un demi-siècle pour un territoire qui était peut-être un peu plus proche de la zone monétaire optimale que d'autres exemples dans l'histoire. Il faut souligner aussi qu'en 1876, la Banque centrale n'est pas autonome. L'autonomie de la Banque centrale, elle est acquise en 1922. Donc il faut encore attendre pratiquement 50 ans. Donc on parle vraiment de processus séculaire. On a eu deux monnaies en parallèle, et donc ce processus a été long. Deuxième exemple, long, mais ça a été un succès. Deuxième exemple, l'exemple scandinave, qui lui n'a pas été couronné de succès, c'est l'union monétaire entre le Danemark, la Suède et la Norvège. Donc là, on commence à en parler à la fin des années 1860. On crée la couronne entre le Danemark et la Suède en 1873. Même chose. Alors, on part à ce moment-là d'un contexte où on décide de faire émettre la monnaie par deux banques centrales. Fatale erreur, comme on s'en rendra compte par la suite. C'est pour ça que c'était quand même une bonne chose de décider de créer la Banque Centrale Européenne pour mettre en place la monnaie unique dans notre contexte. On met en place à l'époque un mécanisme de compensation qui permet de régler de façon automatique les flux. C'est un peu comme les lignes de swap entre les banques centrales qu'on a aujourd'hui mises en place après la crise. Manque de chance, la Première Guerre mondiale éclate. Qui dit Première Guerre mondiale dit pour les économistes, dans ce contexte-là, des chocs asymétriques. Donc jusque-là, tout va bien. Les économies sont à peu près sur des développements parallèles. Il n'y a pas de divergence. On n'a pas forcé la convergence entre les économies. La Première Guerre mondiale intervient, des chocs asymétriques, puisqu'on a d'un côté la Norvège qui est plus proche du Royaume-Uni, de l'autre côté le Danemark qui est plus proche de l'Allemagne, la Suède qui est bien avec les deux, donc qui va plutôt bien, et dans le fond, très très vite, on en arrive à des tensions monétaires. La Suède va beaucoup mieux que les autres, des flux d'or qui arrivent en masse vers la Suède, pression inflationniste, la Suède décide de mettre un embargo sur l'or, c'est la fin de la monnaie unique dans les pays scandinaves. Dernier exemple, que je ne vais pas trop développer parce qu'il est, il est beaucoup plus connu, c'est l'unification monétaire aux États-Unis. Alors il y a une bible sur le sujet, si vous avez à réviser ça ou à enseigner ça, c'est le papier de Rockoff dans les documents de travail du NBER qui reprend un peu toutes les étapes. Alors au début, il y a la création du premier billet dollar en 1791 par Hamilton, qui a été ensuite porté en faux par Jackson, qui a fait la guerre à l'émission monétaire centralisée, etc. Donc, $3 qui circulent, la côte ouest qui préfère ancrer tout ça à l'or, il y a le greenback, le yellowback, et puis ces différents systèmes. Et je pense que le vrai test qui nous rapproche de l'expérience zone euro, c'est pas la première grande dépression de 1890, c'est celle de 1930. C'est au moment où on se rend compte à l'époque, avec le recul, on se rend compte qu'à l'époque, on a fait des grosses bêtises en matière de politique monétaire. Hein, le système de réserve fédérale n'a pas agi en prêteur en dernier ressort. On a augmenté les ratios bancaires. Donc on a fait l'inverse de ce qu'il fallait faire. Mais à l'époque, on s'est rendu compte qu'il fallait prendre des mesures au niveau budgétaire et au niveau politique pour faire en sorte que cet ensemble de pays qui n'était pas forcément une zone monétaire optimale puisse fonctionner sous une monnaie unique. Les quatre problèmes qu'on a réglés à l'époque, c'est d'une part, on a créé il y a eu beaucoup de crises bancaires dans l'histoire de la construction du dollar, on a créé l'agence fédérale d'assurance des dépôts. Ensuite, on a institué des larges transferts budgétaires. Il y a eu un grand programme d'assurance chômage. Pensez au développement dont on parle aujourd'hui sur la façon dont on doit compléter la zone euro. À l'époque, les États-Unis ont mis en place un système redistributif qui est finalement quasiment permanent dans certains cas. La mobilité du travail, qui était un obstacle à cette zone monétaire optimale, qui était limitée à l'époque, elle s'améliore, notamment, mais pas seulement, parce qu'on introduit un salaire minimum. Et enfin, il y a un grand programme, entre guillemets, d'investissement fédéral, qui à l'époque était mis en place pour mécaniser l'agriculture, mais en tout cas, on met en place une sorte de capacité d'investissement au niveau fédéral aux États-Unis. Donc il me semble que ces trois épisodes-là, quelle réponse ils nous donnent à la question « fallait-il faire l'euro avec le bénéfice du recul ?» Première réponse, c'est qu'il faut de la patience. Dans tous les cas, il a fallu beaucoup de temps. Deuxième réponse, c'est que même les échecs, en l'occurrence l'échec scandinave, ont été riches en enseignements. Et finalement, pour avoir une union monétaire forte, il faut une union politique et une union budgétaire.